Quand Brigitte sort de chez le dentiste ce jour-là, vers 15h, elle se pose devant le restaurant Bellevue, à la route de Rechnet. À Bienne, à l'époque, c'est un endroit bien connu des habitués de l'autostop. Brigitte devait conduire elle-même ce jour-là, mais sa voiture était au garage. Elle aurait préféré faire du ski ce jour-là, mais il fallait soigner cette carie. Elle avait dit qu'elle prendrait le train ce jour-là, mais elle a préféré faire du pouce. Elle n'est jamais rentrée à la maison.
Crime suisse.
Bonjour, je suis Antoine Droux. Et dans Crime suisse, je vous raconte la mort, la violence et le sang, oui, mais je vous raconte surtout des époques, des régions, des parcours de vie, la vie, tout simplement. Je vous raconte des histoires qui nous tendent un miroir. Les événements sont véridiques et ils ont marqué notre pays, nos régions. Ils nous ont marqué, nous qui habitons ici, nous ou nos parents ou nos grands-parents. Ces événements sont toujours là, enfouis quelque part dans nos mémoires, prêts à ressurgir. Mais je dois vous prévenir, même si le temps a passé, les faits restent parfois très durs à entendre, comme ici, où il est non seulement question d'un meurtre, mais aussi de violences sexuelles. Crime suisse, épisode 2. L'autostoppeuse n'est jamais rentrée à la maison. À Tavannes, dans le Jura bernois, la journée du 20 décembre 1990 est splendide. Ça tombe bien, Brigitte a congé, comme tous les jeudis. Aujourd'hui, elle n'a qu'une seule envie, aller skier aux Savanières. C'est qu'il faut profiter des paquets de neige qui sont tombés sur toute la Suisse, depuis une semaine, jusqu'en plaine. En plus, un redoux est annoncé pour le week-end. Il faut glisser avant que ça fonde. Seulement voilà, la jeune femme a rendez-vous chez le dentiste, à 13h30, à Bienne. Le ski, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tant pis. Brigitte rouspète, et pas seulement à cause du ski. Elle se plaint auprès de sa mère parce qu'en plus, sa voiture est chez le garagiste. C'est argent quand on a 18 ans depuis quelques mois et qu'on vient d'avoir le permis. Mais bon, personne n'y peut rien. C'est comme ça. Et puis finalement, c'est pas si grave, non? Pour aller à Bienne, elle peut toujours prendre le train. Alors Brigitte quitte la maison familiale vers 13h. Elle est habillée plutôt rock, hard rock même, comme d'habitude. Bottes noires de cow-boy, une chaîne autour de la cheville, jeans gris. Son pull en laine est rose, c'est maman qui l'a tricoté. Il y a des franges qui pendent aux manches de son blouson en cuir, blouson sur lequel sont cloutés des badges aux couleurs de la bière Heineken qu'elle a l'habitude de boire au goulot. Ses cheveux châtains lui tombent sur les épaules, sa frange est légèrement sur le côté. Elle n'aime pas trop sa nouvelle coupe de cheveux, la permanente est trop bouffante à son goût. En partant de chez elle, la jeune femme a assuré à sa mère qu'elle allait prendre le train. Mais en réalité, elle se rend à Bienne en autostop. Elle fait ça souvent, dire qu'elle prend le train pour finalement tendre le pouce au bord de la route, comme tant de jeunes à l'époque. Mieux vaut que les parents ne le sachent pas, ils s'inquiéteraient. Mais du souci, les parents de Brigitte vont quand même s'en faire, en ce 20 décembre 1990, parce que l'après-midi passe et que Brigitte ne rentre pas. Parce que les heures tournent et que leur fille unique n'est toujours pas de retour. Bizarre, elle appelle toujours quand il y a un contretemps. La soirée est déjà bien entamée lorsque le père fait la tournée des cafés du village. Vous avez vu ma fille? Vous avez vu Brigitte? Non. La réponse est partout la même. À la maison, la mère guette l'horaire des trains. Quand le dernier est passé, celui de 23h, papa et maman se résignent et vont se coucher. Brigitte dort peut-être chez une collègue à Moutier, qui sait? tôt, le vendredi 21 décembre 1990, la mère de Brigitte appelle la pharmacie de Moutier où sa fille travaille. Mais ce matin, elle n'est pas venue. Elle appelle le dentiste. On lui confirme que oui, la veille, sa fille était bien au rendez-vous pour sa carie. Et que oui, elle est bien repartie, aux environs de 15 heures, du cabinet de la rue du Four. De plus en plus inquiète, la mère de Brigitte téléphone à la police de Bienne, qui ne sait rien. Alertée à son tour, la police de Tavannes se rend au domicile familial pour entendre les parents. On contacte les hôpitaux, les postes de police de la région, qui n'en savent pas davantage. Les jours passent et toujours pas de nouvelles. Le 29 décembre 1990, plus d'une semaine après le rendez-vous chez le dentiste, la police cantonale bernoise publie un avis de disparition. Le 20 décembre dernier, une jeune fille de 18 ans, Brigitte Didier, a disparu de son domicile à Tavannes. Son signalement est le suivant. 1,80 m, stature athlétique, cheveux châtains mi-longs, légèrement frisés. Ses yeux sont gris-bleu. La jeune fille parle français. Il est aussi question dans le communiqué du pull rose, du blouson à franges et des jeans gris foncé. Dynamique, Brigitte fait partie des jeunesses catholiques. Sportive, elle pratique la natation, le ski. Elle a même déjà sauté en parachute et rêve de passer son brevet de chute libre. Elle fait du tir. L'année de sa disparition, elle a été élue reine des jeunes tireurs du district de Moutier. Elle a raflé la mise avec 59 points sur 60. Et non, non, Brigitte n'est pas du genre à se laisser faire si on la cherche. Un de ses amis explique dans la presse qu'elle ne craint rien, ni personne. Il raconte une fête de village où elle a copieusement rossé deux types qui l'ennuyaient. Il fallait voir ça. Si quelqu'un l'a attaqué, si quelqu'un l'a agressé, sûr et certain qu'elle s'est défendue. Le même jour de la publication de l'avis de recherche, le 29 décembre 1990, la mère de Brigitte Didier témoigne à la radio sur la RTS.
On a pensé d'abord éventuellement à une fugue, quoiqu'on ne voyait pas ce qu'elle avait comme raison, vraiment une raison en arrière-marquée. Elle est partie, elle était toute joyeuse, elle était contente d'avoir congé. Bon, il y a eu un petit problème avec sa voiture, elle venait d'avoir son permis, sa voiture est tombée en panne, elle ne pouvait pas l'employer, mais ça a duré un jour. Bon, elle a pleuré, comme quelqu'un qui est déçu de ne pas avoir sa voiture, étant donné qu'elle avait réussi son permis. Autrement, son travail, bon, il y a des petits ennuis comme un peu partout quand on travaille. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais pas vraiment de raison, il me semble. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle ne nous ait pas avertis. Même si elle avait voulu faire une fugue, je ne sais pas, partir avec des copains quelques jours, comme ça, une fois sur place, il me semble qu'elle nous aurait téléphoné pour nous dire « Ne vous faites pas de soucis, je rentre pas tout de suite », mais enfin, moi je le vois comme ça, mais je peux me tromper.
Désespérée, la famille fait appel à des radiesthésistes et à des voyants. Il y en a beaucoup dans la région qui manient le pendule. Ils perçoivent la jeune fille en vie, mais à des endroits différents. L'un la voit à Macolin, l'autre à Nidau, puis un troisième à Neuchâtel, voire même dans le sud de la France. Mais elle n'est nulle part. Les amis se mobilisent. Ils font et refont la tournée des cafés, des pubs où Brigitte avait ses habitudes, jusqu'à Saint-Imier. Ils s'arrêtent sur le viaduc de l'autoroute N16, à l'entrée du tunnel du Taubenloch, pour regarder par-dessus le pont, sans savoir que quelques centaines de mètres en contrebas se trouve déjà le cadavre de la jeune femme. Thank you. samedi 5 janvier 1991. Le cadavre de Brigitte Didier, 18 ans, disparue de son domicile de Tavannes 2 semaines plus tôt, est identifié par la police. Il a été dissimulé à l'écart des chemins pédestres, à la hauteur du 2e pilier du viaduc de l'autoroute N16 à Bienne, au Champ de Bougeant, route de Soleure. Ce sont 2 enfants, de 12 et 14 ans, qui ont découvert le corps à demi nu la veille. Ils n'ont rien osé dire tout de suite. Ils avaient l'interdiction de jouer là et peur de se faire gronder. La jeune femme a été lardée de 10 coups de couteau à viande, 8 dans le dos, 2 dans la poitrine. Les plaies sont importantes. Des habits de la victime sont éparpillés alentour. Son cou est marqué par des hématomes. Elle a d'abord été étranglée à main nue jusqu'à perdre connaissance avant de revenir à elle. Elle a ensuite été violée et poignardée. Des actes si violents que le procureur du Jura bernois, Pascal Flautron, s'en souvient encore des années plus tard, en 2012, sur le plateau de la RTS, dans l'émission Zone d'ombre.
C'est une affaire qui marque effectivement. Quand vous ouvrez ce dossier pour la première fois, vous tombez sur ces photos, les photos de la scène de crime, les photos du corps de la malheureuse. Ça démontre véritablement une violence extrême. Dans mon réquisitoire, j'ai même parlé de mise à mort.